raconte. Christophe Ondelatte.
En novembre 2019, dans le petit village de Ronquerolles, dans le Val d'Oise, un curé à la retraite de 91 ans, l'abbé Mattassoli, est retrouvé mort chez lui. La scène de crime est d'une barbarie hallucinante. Il a de l'eau de Javel dans l'oreille droite, les yeux enfoncés dans leurs orbites, un crayon planté dans l'œil droit, un chausse-pied dans la bouche, et à son extrémité, un crucifix. Le curé est mort étouffé. Le meurtrier est immédiatement interpellé et exceptionnellement, pour cette histoire, vous n'aurez pas son nom, seulement son prénom, Alexandre. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il n'a pas été jugé et donc pas condamné. Les experts psychiatres l'ont déclaré fou. Et pour comprendre comment ils en sont arrivés à cette conclusion, je vous propose de plonger dans la côte B du dossier d'instruction d'Alexandre.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Dans le système judiciaire français, le dossier d'instruction contient un sous-dossier appelé Côte B. Il rassemble les rapports des experts psychiatres, psychologues et de l'enquêteur de personnalité. Ouvrons l'un de ces dossiers.
Ondelatte raconte.
Côte B sur Europe 1.
Le 4 novembre 2019, à 10h15 du matin, les gendarmes de Beaumont-sur-Oise interpellent un chauffeur qui zigzague sur la chaussée. Le conducteur tente de s'enfuir. Il s'appelle Alexandre. Il a 19 ans depuis 10 jours et il n'a pas de permis. Il est violent avec les gendarmes et tient des propos totalement incohérents. La voiture qu'il conduit appartient à l'abbé Mattassoli. Et dans la foulée, les gendarmes découvrent le cadavre de l'abbé, chez lui, tué dans des circonstances totalement barbare. Alexandre est placé en garde à vue et une équipe de gendarmes perquisitionne le domicile de sa maman et découvre qu'Alexandre n'est pas qu'un assassin.
Bah, je me suis dit, mais c'est pas possible que mon gamin ait fait ça, quoi. Parce que mon fils, c'est pas un meurtrier. Mon fils, c'est pas quelqu'un de violent. C'est pas. Et puis quand j'entendais quand même un truc de torture et de barbarie, je me disais, oh, mais c'est pas possible, mon gamin, il a pas pu faire ça, quoi.
La mère d'Alexandre.
Donc vous voyez, perquisition chez vous, hein. Ça fait drôle, hein. Qu'ils ont commencé à regarder tout, machin. Je dis, de toute façon, vous pouvez y aller, mais vous trouvez rien. Parce que je dis, mon fils, il est malade. C'est pas possible. Il a pas fait ça. C'est pas lui qui a fait ça. Il est malade. Et ils m'ont dit, mais madame, c'est pas à vous de dire les choses. Il sera vu par un médecin. C'est le médecin qui dira vraiment ce qu'il en est. Je l'avais vu, de toute façon, qu'il était malade. J'avais cherché à l'emmener voir un psychiatre. On avait été voir un psychiatre, d'ailleurs, le 15 octobre. Parce que j'ai vu mon fils qui parlait avec ses mains. Ouais, comme si, vous savez, il était avec quelqu'un, il parlait avec quelqu'un. Et puis, quand mon mari l'a vu faire un doigt d'honneur à notre voiture, parler puis faire des doigts d'honneur, il m'a dit « Là, Alexandre, il va pas bien, là. » Ah, mais il était devenu fou. Il était fou. Je sais pas si vous connaissez le film Split. C'est un individu qui a plein de personnes qui vivent en lui. Et bien, Alexandre, c'était ça. À chaque fois, c'était un personnage différent qui prenait ses voix, quoi. Ses petites voix qui devenaient différentes. Il a parlé en espagnol, comme s'il avait son grand-père qui vivait en lui. C'était impressionnant, quoi. Une fois, pendant 5 jours, il n'a pas mangé. Puis, au final, vous savez que quand on est majeur, même que ce soit votre enfant, vous voyez qu'il ne voit pas bien. S'il est majeur, s'il ne veut pas se faire soigner, ben, vous ne pouvez rien faire. Et ça, c'est dramatique. Franchement, je vais dire une maman qui dit « Oh, mon fils, il va pas bien. Oh, à l'aide, au secours, là, parce que là, j'ai peur pour lui. Oh, mais vous inquiétez pas. Ben, vous inquiétez pas, il est majeur. Ben, c'est à lui de venir. » Comment? Il se rendait même pas compte qu'il était malade. Et moi, quand les gendarmes sont arrivés ici pour faire la perquis, j'ai dit « Ben voilà, depuis tant que j'arrête pas de dire que mon fils, il est malade, que je veux qu'il soit pris en charge, que parce que sous prétexte qu'il est majeur, personne ne veut s'en occuper. » J'ai dit « Voilà le drame. » Et le policier m'a dit « Ben regardez, madame, maintenant, on va s'en occuper. » J'ai dit « Ouais, mais regardez, on va s'en occuper, mais qu'est-ce qui vient de se passer, là ?» Parce que là, au final, ben, pour moi, hein, Alexandre, ben, je me suis dit « Ça aurait pu être évité, tout ça. Ça aurait pu être évité. »
En garde à vue, face aux gendarmes, Alexandre est totalement incohérent. Alors ils le conduisent à l'hôpital psychiatrique de Clermont-de-l'Oise, où il est vu par un psychiatre. Code B161. Rapport médico-psychiatrique du docteur Alain Targa. Alexandre est âgé de 19 ans. Il est le troisième d'une fratrie de quatre. Ses parents sont divorcés. Devant l'aspect inquiétant du sujet sur le plan mental, Alexandre est resté menotté durant l'examen qui se déroule en présence d'un infirmier. Lorsque nous faisons référence au prêtre, voici les réponses d'Alexandre. « Il m'a exorcisé avec de l'eau bénite. J'étais attaché avec des cordes à base de cannabis. Quand j'étais petit, il pensait que j'étais démoniaque. » Alexandre exprime par ailleurs un sentiment morbide. Le temps s'est arrêté dans ma tête depuis 6 mois. Le temps ne m'intéresse plus à cause d'échecs amoureux, d'échecs scolaires et d'échecs de la vie. Ce qui est important, ça n'est pas le temps qui passe, c'est ce que l'on ressent.
Alors de ce que mon confrère, le docteur Targa, me décrit, hein, c'était un jeune homme... qui a priori n'avait pas dormi depuis 72 heures, mais qui était subagité, avec les yeux extrêmement rouges, une allure sténique.
Docteur Bruno Roux, expert psychiatre.
Et puis surtout, plein de signes qui montrent qu'il y avait une hallucinose en même temps que l'interview, c'est-à-dire qu'il lui posait des questions, Alexandre tendait l'oreille à ses voix, parfois leur répondait, parfois répondait à l'interrogateur, et puis... de ce qu'il disait, il n'y avait vraiment pas de sens. Il me semble qu'il y avait des notions de peut-être extraterrestres, mais des choses qui étaient tout à fait pas imbricables les unes avec les autres, et puis qui sortaient de rien, quoi. Qui étaient purement un délire, interprétatif.
Code B161. Rapport d'expertise médico-psychiatrique du docteur Targa. Nous n'avons pas pu transcrire l'intégralité des propos d'Alexandre du fait du caractère prolixe de son discours qui prenait une forme confuse puis hermétique de façon permanente. Durant tout l'entretien, Alexandre ne se révélera jamais calme et serein, montrant de façon permanente une agressivité contenue qu'il aurait pu exprimer physiquement. Alexandre doit faire l'objet d'une hospitalisation sans son consentement.
Le médecin, il a suspendu sa garde à vue parce qu'il fallait absolument qu'il soit pris en charge. Hein. C'était important qu'il soit pris en charge parce qu'il allait vraiment pas bien, le gamin. Donc, il a été transféré à l'UAU et ils lui ont fait une piqûre pour le calmer. Hein. Il a repris conscience, quelque part, il a repris conscience le 16 novembre. Et pour lui, il comprenait pas ce qui arrivait. Hein. Pour lui, vous savez quoi ? Il avait, il avait été arrêté au volant de la voiture du curé. Il allait passer quelques mois en hôpital psychiatrique et puis il allait revenir. Puis quand il est passé devant le juge et puis que le juge lui a dit les faits qui lui étaient reprochés, Alexandre, il restait. Il savait pas le moment. Il savait pas ce qu'il avait fait.
En réalité, la première image que j'ai d'Alexandre, j'arrive pour le voir à l'hôpital psychiatrique. Et j'attends un peu dans une petite pièce parce qu'il n'y a rien de prévu pour l'avocat, etc. Donc j'attends un peu.
Maître Cathy Richard, avocate d'Alexandre.
Et on me le descend et je vois arriver. J'avais l'impression de voir un petit oiseau tomber du nid, quoi. Vraiment. Il était un peu ébouriffé et il regardait partout autour de lui. On sentait qu'il était perdu. Il y avait une détresse qui émanait de ce gamin à ce moment. D'abord. Je dis gamin parce qu'effectivement, on avait l'impression d'être un tout petit garçon. Une détresse folle et perdue, ouais. Un piaf tombé du lit. Vraiment, c'est toujours l'impression que j'ai de lui quand je revois cette image de lui arrivant dans cette pièce. À ce moment-là, j'ai pas de précision parfaite sur les faits qui viennent de se dérouler. Hein. Je n'en sais que ce qu'on a bien voulu m'en dire. Mais c'est vrai que le gamin que j'ai en face de moi me fait pas peur, moi. Vraiment. Enfin, d'ailleurs, on me demande est-ce qu'on vous laisse toute seule avec lui. Je réponds oui, bien sûr. Oui. Et ce gamin, franchement, c'est pas très professionnel de dire ça, mais j'ai plus envie de le prendre dans mes bras et de lui dire tiens, voilà, là, ça va aller, plutôt que de partir en courant. Enfin, il me donne l'impression d'avoir besoin d'être contenu, mais pas dans le sens parce qu'il est excité, mais d'être vraiment mis dans une bulle et rassuré. Il est comme, quand je dis vraiment un piaf perdu, on sent que il regarde autour de lui, il comprend rien. C'est pas fin, c'est pas simulé, c'est juste une forme, à la fois une détresse, puis dans ses yeux, effectivement, il y avait une souffrance, enfin, c'était un puissant fond de souffrance.
Durant 10 ans, cette maison typique de l'Oise a abrité Roger Matassoli, un prêtre retraité, isolé et assassiné, il y a 3 semaines, dans des circonstances particulièrement violentes.
Outre le fait qu'il présentait des traces de coups sur l'ensemble du corps, il avait un crucifix enfoncé au fond de la gorge.
Le principal suspect, Alexandre V, est arrêté par hasard par des gendarmes lors d'un banal contrôle routier. La voiture qu'il conduit appartient à Roger Matassoli.
Ils se rendent compte qu'il n'a pas le permis. Le conducteur se rebelle.
Ce jeune homme de 19 ans n'a pourtant pas le profil d'un délinquant.
Moi, quand je vois les clients avant d'avoir eu accès au dossier, il est extrêmement rare que j'interroge sur les faits. Parce que de toute façon, ils peuvent me dire n'importe quoi. Ça ne me sert à rien. Donc, je suis plutôt là, à ce moment-là, pas pour l'interroger, c'est pas mon job, il va être interrogé par d'autres, il l'a déjà été. Moi, je suis là à ce moment-là pour lui donner, au contraire, des réponses, dans la mesure où j'en ai. Donc, lui expliquer ce qui va se passer, me présenter, lui dire qu'il est plus tout seul. Voilà. Je suis pas du tout dans une optique de l'interroger. C'est plutôt moi qui lui parle à ce moment-là. C'est plutôt moi qui lui explique, qui lui demande qu'est-ce qu'il a compris de ce qui se passe, de ce qu'il est en train de se passer, qu'est-ce qui va lui arriver. Et puis effectivement de le rassurer parce qu'à ce moment-là, il a quand même conscience hein, qu'il peut aller en prison. Il l'a entendu en garde à vue. Il a conscience qu'il va aller en prison, qu'il peut aller en prison. Il est terrorisé par ça aussi, à l'idée d'aller dans une prison.
Le 26 décembre 2019, 7 semaines après le meurtre de l'abbé Matassoli, le juge d'instruction met Alexandre en examen pour meurtre, précédé et accompagné ou suivi d'actes de torture et de barbarie. Alexandre doit donc quitter l'hôpital psychiatrique pour la prison. Alors qu'un expert psychiatre a diagnostiqué que son discernement était aboli, son avocate Cathy Richard est furieuse.
Ce qui, à mon avis, à ce moment-là, est criminel. Voilà, je le dis. C'est criminel. Il n'y a aucune urgence d'abord de le mettre en examen et encore moins de le placer en détention. Alors qu'on est dans cette période terrible entre le 25 décembre, enfin vraiment, on est le 26 décembre, vous imaginez, il n'y a pas plus mauvaise date du point de vue de l'administration pénitentiaire, du point de vue pour le mettre en examen, alors qu'il n'y a aucune urgence à ça. Donc à ce moment-là, c'est vraiment... quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Voilà. Et il part en détention. Et je passe un temps fou à essayer de voir avec la maison d'arrêt vers laquelle il est dirigé pour prévenir qu'il ne doit pas aller dans un quartier classique, qu'il doit tout de suite être mis en infirmerie. Je me démène. Mais ça fonctionne pas comme ça, parce qu'on est le 26 décembre au soir, parce qu'il n'y a pas tout ce qu'il faut. Enfin, bon, ouais. Donc, heureusement, il va quand même au quartier arrivant. Et puis, il se rend compte assez rapidement que, de toute façon, c'est pas du tout sa place. Et il va être ensuite transféré dans une unité psychiatrique de détention.
C'est un choc quand même. Hein. J'ai revu mon fils. J'ai réussi à revoir mon fils après qu'il a été mis en examen et tout.
La mère d'Alexandre.
Parce que le temps, vous savez, qu'on ait le droit, par le juge, le droit de visiter et tout, ben, je l'ai revu fin janvier. C'est long, hein. Alors, moi, je vais dire, c'est long pour nous, mais pour lui. Ben, lui, je peux vous dire que la première fois que je l'ai revu, ben, il s'est écroulé. Hein. Il s'est écroulé dans les bras en disant, mais je comprends, je sais pas ce qui s'est passé, je comprends pas. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je fais là? Et pour combien de temps j'en ai, je sais pas. Qu'est-ce qui va m'arriver, je sais pas. Je sais pas ce que j'ai fait, maman, j'ai fait quoi? Je me souviens pas, maman, j'arrive pas à me souvenir. J'ai beau réfléchir, je me souviens pas. C'est impressionnant quand même. Hein. Quand vous êtes accusé de choses et qu'on vous dit que au final c'est lui parce que c'était des empreintes et tout, mais que de l'autre côté, ben, le môme, il ne sait pas ce qu'il a fait. Je tenais bon devant lui, mais dès que la porte était fermée, je m'écroulais. Hein. Parce que c'est horrible de voir son gamin pas comme ça. En plus, c'était l'hiver, il n'était pas habillé, il avait, vous savez, juste le pyjama, les tenues d'hôpital, là. Il n'avait pas le droit à un peignoir, il avait le droit à rien, pas de chaussettes. J'ai même fini par dire aux infirmières, j'ai dit, mais vous pouvez pas, comment ça se fait qu'il n'est pas habillé? Il n'a pas le droit, c'est trop tôt, machin. Mais j'ai dit, mais au moins, mettez-lui des chaussettes, mettez-lui. J'ai les glacé, le gamin. Il était frigorifié, le môme. Puis il y a un zombie, il marchait. Ben, j'avais envie de repartir avec lui. Hein. J'avais envie de l'embarquer et puis, vous voyez, j'avais envie de partir avec lui et dire, hey, je t'emmène, t'as rien à faire là, quoi. Parce que pour moi, il avait rien à faire là et c'est pour ça que je trouvais ça écœurant qu'il soit, qu'il soit mis en détention, qu'il soit là-bas.
Plongé dans l'esprit des plus grands criminels. Ondelat raconte.
Côte B sur Europe 1.
Christophe Ondelat.
4 mois après le meurtre de l'abbé Matassoli, Alexandre est expertisé par un nouveau psychiatre, le docteur Bruno Roux.
Oui, alors c'est un homme qui est de petite taille, hein, il mesure même pas 1m65, 67 kilos, il est de corpulence assez fine. Puis quand je le rencontre, il a une barbe éparse mais quand même un peu touffue. Bon, il est en pyjama bleu. Hein.
Docteur Bruno Roux, expert psychiatre.
C'est quelqu'un qui se pose énormément de questions. C'est quelqu'un qui veut savoir comment est-ce qu'il a pu en arriver à tuer. Et puis savoir également ce que va devenir sa vie maintenant qu'il est malade. Sachant que quand je le rencontre, il n'a pas un souvenir très clair et précis d'avoir tué le père Matassoli. Et je rencontre un jeune homme qui est vraiment une image d'épinal de l'hospitalisation psychiatrique. Il est ralenti. Au bout d'un moment, on se rend compte qu'il a quand même une désorganisation de la pensée, que toutes les questions sont pas répondues en même temps, qu'il mélange un peu les faits et puis qu'il a des souvenirs très partiels. Néanmoins, en prenant du temps, une bonne heure et demie, on se rend compte que c'est quelqu'un qui a un bon bagage intellectuel et qui aime bien mettre en narration. Donc il fait un effort pour essayer de recomposer ce souvenir qui pour lui est complètement déstructuré puisqu'il était à l'éclosion d'une schizophrénie gravissime à l'époque.
L'année où Alexandre tue l'abbé Matassoli est pour sa famille une année terrible. Il est à la fac de droit après avoir décroché son bac avec mention assez bien. Et après une rupture amoureuse, il sombre. Sa mère le voit parler tout seul, lutter contre des voix intérieures. Et elle comprend qu'il devient schizophrène, comme son ex-mari, le père d'Alexandre.
Il prenait des pierres, il se claquait la pierre sur la tête. Hein.
La mère d'Alexandre.
Parce qu'il en avait marre d'entendre ses voix, il ne voulait plus les entendre. Parce qu'il m'a dit que c'était horrible. Et apparemment, à la fin, elle hurlait dans sa tête. Au final, quand elle voulait qu'il fasse quelque chose et qu'il ne voulait pas les faire, elle hurlait. Si bien qu'il m'a dit qu'il n'en pouvait plus.
L'année des faits, en février, il a une rupture sentimentale très douloureuse puisque sa petite amie de l'époque a été surprise par lui au lit avec son meilleur ami. Donc à partir de ce moment-là, lui, il évoque une année qui glisse. Alors il dit je bois, il dit boire seul, même jusqu'à l'ébriété. Il fume le cannabis, il a désinvesti complètement ses études de droit. Et donc il commence à raconter finalement ce vécu hallucinatoire qui arrive petit à petit avec au début des voix un peu pondérées. Il a des voix très négatives et puis 2-3 personnes références qui vont être dans sa tête sous forme d'hallucination acoustico-verbale. Il citera un ancien professeur de français. Et également le conjoint de sa mère, avec lequel il dit avoir eu pas mal de frictions, mais dont il reconnaît néanmoins le cadre sécurisant qu'il a pu lui proposer par le passé. Bon, il faut savoir que la mère d'Alexandre avait aussi un vécu douloureux avec le père d'Alexandre, qui était donc schizophrène. Il y avait eu de fortes violences dans le couple. Il y avait eu notamment une tentative de suicide aux 4 ans d'Alexandre de la part de sa mère. Ce qui est d'ailleurs un moment fondateur de la maladie psychique, parce que même si on est très loin des prodromes de la schizophrénie à 4 ans, il va constituer un cauchemar récurrent qu'il ne cessera d'avoir à partir de là. C'est un monstre, une bébête noire avec les yeux verts, qu'il voit pour la première fois quand il voit partir sa mère après sa tentative de suicide et qui reviendra par cauchemar de manière récurrente et laissera un fond de mal-être tout au long de son développement.
Devant l'expert psychiatre, Alexandre raconte les heures qui précèdent le meurtre de l'abbé Matassoli. 48 heures plus tôt, il s'est engueulé avec sa mère qui ne supportait plus ses cris. Elle a tenté de le faire interner, mais il était majeur et elle ne pouvait rien faire sans son consentement. Après la dispute, Alexandre a claqué la porte et il est allé se réfugier chez son père.
Donc au moment où les faits commencent, il est chez son père et de son propre aveu, il est chez son père parce que son père lui fout une paix royale. Néanmoins, son père est comme lui, enfin avant lui, atteint d'une schizophrénie et il essaye lui aussi, par le biais de l'expérience, de l'amener à consulter, ce qui n'est pas possible. Et donc la matinée des faits, elle commence par une hallucination. Le sujet entend son demi-frère, bon, le frère qui n'est pas là, il essaye de rentrer dans la chambre et là il voit qu'il y a une clé de cryptage sur la porte, enfin sur une porte de maison classique. Donc il est à ce moment-là extrêmement persécuté, il va alors se recoucher. Et pendant qu'il fait cette sieste, il a de fortes hallucinations synesthésiques, il a l'impression d'être roué de coups, tabassé. Il dit des douleurs d'accouchement dans son lit. Donc, au moment où il se réveille, il est vraiment très mal. Et là, il se confronte à son père. Il ne saurait absolument pas dire pourquoi le conflit commence, mais il se voit mettre le premier coup de poing, amener son père au sol et le rouer de coups à terre avant de quitter la maison et de se réfugier dans les bois. Qui va durer à peu près 48 heures avant qu'il ne réémerge à quelques dizaines de kilomètres de là, chez le père Matassoli. Alors, il a une amnésie partielle des faits, et notamment, il ne sait absolument pas ce qui s'est passé pendant 48 heures quand même, et 16 kilomètres d'écart. Donc on l'imagine peut-être errant dans les bois dans un état de délire et d'hallucination totale. Et lui se souvient de l'ouverture de la porte du père Matassoli et de sa première phrase qu'il lui a dit. Il lui dit « Mon père, pourquoi j'entends des voix ?» Et là-dessus, sans expliquer plus, assez rapidement, il va lui sauter dessus et commencer. Pareil, il va employer ce terme « amener à terre ». Il donne le premier coup, il l'amène à terre. Et à partir de ce moment-là, il se souvient plus trop. Bon, a priori, je pense qu'il n'aura jamais de souvenir de ça, parce qu'il a une forte dissociation traumatique. Je pense que la scène de crime était particulièrement violente. Il n'y a pas eu d'arme à part, je crois, un crucifix qui a été enfoncé dans la gorge. Mais sinon, c'est un crime qui a été fait entièrement non armé, à main nue. Donc là-dessus, je pense que le sujet a une dissociation traumatique qui fait qu'il ne peut pas se souvenir de la violence de ses coups. En tout cas, il va reprendre la mémoire sur des éléments complètement délirants au moment où il vole la voiture du père Matassoli. Au moment où il vole cette voiture, qui va avoir un souvenir de vécu délirant avec notion de travail pour la DGSE. Des choses très... Là, par contre, c'est un délire complètement déstructuré, sans queue ni tête, avec des éléments sans aucun rapport les uns avec les autres. Il y a de la DGSE, je me souviens même plus s'il y a des extraterrestres ou pas. Enfin, en tout cas, il y a du surnaturel, puisque lui dira que, de manière récurrente depuis son plus jeune âge, il a l'hallucination d'un monstre noir aux yeux verts, avec de nombreux yeux verts. Là, il délire complètement à ce moment-là.
Code B14, expertise psychiatrique du docteur Roux. Le sujet relate des souvenirs extrêmement flous. Je me souviens de l'avoir frappé. Je lui ai demandé pourquoi j'entends des voix dans ma tête. Il a essayé de s'enfuir et je l'ai emmené au sol et frappé. Je pensais qu'il me contrôlait à distance avec une télécommande. Alexandre dit qu'il entendait la voix de son grand-père qui disait en espagnol « Hijo de puta », fils de pute. Alexandre raconte qu'ensuite, il se souvient avoir été arrêté.
Là, quelque part, cette personne, je vais dire, elle lui avait fait du mal aussi à lui. Alors, comme j'ai dit, je cautionne pas ce qu'il a fait. Je lui ai dit, je suis pas d'accord pour ce qu'il a fait. Mais d'autre côté, je sais aussi que c'est pas lui. Parce qu'il n'était pas arrivé chez lui pour en découdre. Il voulait pas le tuer. Il voulait juste savoir pourquoi il entendait sa voix dans sa tête.
Europe 1.
Ondelatte raconte.
Côte B.
Christophe Ondelatte.
La mise à mort de l'abbé Matassoli a été d'une barbarie inouïe. Alexandre l'a asphyxié avec un chausse-pied et lui a ensuite enfoncé un crucifix dans la gorge. Pourquoi tant de barbarie? La réponse est dans la côte B d'Alexandre et dans les secrets de famille. Car le curé Matassoli était loin d'être un saint.
peux vous dire que quand il venait à la maison, il parlait super bien et tout. Il était gentil, on lui donnait le bon Dieu sans confession, comme on dit.
La mère d'Alexandre.
Et il est apprécié tout le monde. Hein. D'ailleurs, il faisait des repas de famille avec nous. Hein. Avec nous, nous en tant que couple et aussi dans la famille. Hein. Quand on se réunissait chez les grands, chez les beaux-parents et tout, il était aussi à la table. Hein. Et il nous a mariés, il a baptisé mon fils. Il a refusé de baptiser ma fille. Quand il ne voulait pas baptiser ma fille, j'ai dit bah, « Pourquoi tu ne voulais pas baptiser? Vous avez baptisé mon premier, vous ne voulez pas baptiser ma fille ?» Du coup, bah, comme j'ai un peu cassé les pieds, il me l'a baptisé, mais bon, à contre-cœur. Et apparemment, c'était sa devise, hein, parce qu'il ne l'a pas fait qu'à moi. Hein. À beaucoup, il refusait de baptiser les petites filles. Il baptisait les garçons, mais pas les filles. C'est curieux quand même. Hein.
Là, on parle de la code B d'Alexandre, mais ce qu'on peut déplorer, c'est qu'il n'y a pas eu de code B Matassoli.
Maître Cathy Richard, avocate d'Alexandre.
Parce que, bon voilà, on en a appris beaucoup après sa mort, en réalité. La mort de l'abbé Matassoli a délié beaucoup de langues.
Roger Matassoli est d'abord décrit comme un prêtre sympathique et apprécié de ses paroissiens.
C'est adorable, au catéchisme, il était super marrant, super gentil, il était même vachement cool pour un prêtre.
L'homme charmant aurait pourtant eu de dangereux penchants.
Tout le monde savait qu'il avait les mains de baladeuse avec les garçons, parce que moi, ma mère me disait de faire attention. Moi, je sais que, il y a juste une fois, sa main sur mon genou, mais ça pourrait être plus loin.
Pour Jean-Paul, en revanche, ce serait aller très loin.
J'avais 9-10 ans.
Un soir du printemps 1962, lors d'un camp scout, le père Matassoli, 24 ans à l'époque, l'aurait entraîné dans sa tente.
Je me suis retrouvé à côté de lui, pas pour dormir, toute une nuit. Et je ne peux pas rentrer dans les détails, mais j'étais tout petit. La sexualité, le sexe, je ne savais pas ce que c'était. Je comprenais pas ce qui m'arrivait. Je ne comprenais pas du tout.
Un an plus tard, Jean-Paul se confie à son père, un homme très croyant et pratiquant.
Moi, je voyais mon père comme Superman. C'est-à-dire qu'il était capable de déplacer les montagnes. Il allait punir ce Roger Matassoli. Il allait le dire à l'évêque et tout, mais je pense qu'il n'a rien fait. C'est un peu un mystère pour moi.
En tout, trois victimes présumées se sont fait connaître officiellement. Jean-Paul, Jacques et un autre garçon enfant de cœur qui aurait été agressé sexuellement durant 4 ans. Mais les cibles du père Matassoli pourraient être bien plus nombreuses.
On est peut-être 10, on est peut-être 20.
Et parmi elles figureraient plusieurs membres de la famille d'Alexandre, le jeune meurtrier présumé.
Le père d'Alexandre et ses frères ayant été, d'après le père d'Alexandre, victimes de l'abbé Matassoli, Alexandre a été lui-même victime de l'abbé Matassoli, en ce sens que l'abbé Matassoli donnait de l'argent à son père et lui aurait aussi donné de l'argent à lui, notamment en lui demandant de faire le ménage chez lui en tenue inappropriée. J'entends assez rapidement parler de qui était la victime pour Alexandre et surtout pour toute la famille paternelle qui était l'abbé Matassoli, donc à la fois quelqu'un qui avait une très très grande emprise, une très forte aura auprès de la famille, mais je pense qu'on va au-delà du charisme, on est dans le cadre de l'emprise, et qu'il a agressé sexuellement pour le moins, son père, ses oncles. J'apprends ensuite que lorsque il y a eu une révélation des faits commis par l'abbé Matassoli sur donc son père et ses oncles, le père et les oncles d'Alexandre, que le grand-père d'Alexandre s'est suicidé. Donc là, je commence à prendre conscience d'un passé lourd, de quelque chose qui est lourd, d'autant que c'est dans le tabou. Et donc, on se rend compte que cette famille, finalement, qui savait qui était l'abbé Matassoli, qui en connaissait les côtés les plus sombres, qui avait souffert de ça, était, bah, comme très souvent aussi dans ces dossiers, malheureusement, n'avait pas coupé les ponts avec l'abbé Matassoli. Et j'apprends que mon Alexandre continuait à aller chez l'abbé Matassoli parce que son père retournait chez l'abbé Matassoli et que voilà, il devait y aller. Et puis on commence à comprendre qu'il se passait peut-être des choses chez l'abbé Matassoli. Alors au départ, Alexandre, il va parler de qu'il lui faisait faire le ménage chez lui parce qu'il y allait pour lui rendre service. Donc il faisait faire le ménage. Puis après, on comprend pas trop dans quelle situation il faisait le ménage. Et puis qu'après, il devait prendre une douche parce qu'il avait fait le ménage. Mais finalement, on se rend compte qu'il était peut-être pas seul dans la salle de bain au moment où il devait prendre cette douche. On sent une ambiance très malsaine.
Le passif qu'il a avec le père Matassoli, ce n'est pas un passif métabolisé. Il ne l'a pas pensé, il ne l'a pas discuté avec une psychologue. Effectivement, c'est quelque chose qui restait de l'ordre du « est-ce que ça se fait, est-ce que ça se fait pas ?»
Docteur Bruno Roux, expert psychiatre.
Et puis notamment, il y a cet énorme flou. Cet homme, a priori, a infligé des préjudices graves à mon père. La famille le fréquente encore. À partir de quel moment, parce que c'est un prêtre, on peut se plaindre de ce qui nous a fait subir. Puis je crois que justement, ça explique aussi la première phrase que dira Alexandre à l'ouverture de la porte du père Matassoli. Tu lui demanderas, mais pourquoi j'entends des voix dans ma tête? C'est que je pense qu'il est déjà dans une tentative d'explication entre ce qu'a pu faire le prêtre qui est mal défini et puis le début de sa maladie. Sachant que son père est aussi devenu malade autour de faits pouvant avoir un rapport avec le père Matassoli.
Ordonnance de mise en accusation d'Alexandre. Page 10. Entendu comme témoin dans la présente instruction, l'évêque du diocèse de Beauvais précisait que l'abbé Matassoli avait été mis en retraite en 2009 à la suite de deux plaintes déposées contre lui pour abus sexuels. En 2015, il lui avait adressé une lettre lui interdisant d'officier en public hors de chez lui. Et en 2018, il l'avait suspendu de tout exercice de ministère en lui interdisant même de célébrer une messe à son domicile.
Tout le monde sent qu'il est en train de dégringoler quand même, Alexandre. Il est en train de dégringoler, il a passé son bac, il l'a eu brillamment. Et ensuite, il se retrouve inscrit à la fac, donc il a un petit appart. Et là, il est seul avec lui-même, sauf que Matassoli va le voir quand même dans cet appartement. Hein. Donc voilà, donc, malheureusement, je dirais, quand on connaît la tournure d'esprit d'Alexandre, l'autre, ça y est, il est venu dans cet appartement, il a mis ses ondes. Et c'est cet influx négatif. Bon. Et Alexandre, il décroche. Alexandre décroche. Et il va retourner chez sa mère, qui constate que son fils va mal, qui s'enferme dans sa chambre, qu'il a des attitudes anormales. Alors, elle connaît un peu, hein, parce qu'elle elle a eu un mari schizophrène. Donc, Et puis, ça se passe mal avec le beau-père d'Alexandre, hein, le mari de sa mère, parce qu'il devient ingérable, hein, notre Alexandre.
Ah bah sincèrement, quand il est revenu vivre à la maison, c'était au mois d'avril, et je vais vous dire, je l'ai trouvé, déjà moi, quand je l'ai dit aux gendarmes, hein, quand j'ai vu arriver mon fils au loin, j'ai cru voir un SDF. Je le reconnaissais pas, mon fils. Il était livide, il avait perdu sa joie de vivre, solitaire, il passait son temps tout seul. Et j'ai dit, mais il est où mon Alexandre? Celui qui riait tout le temps, celui qui avait toujours un truc à dire. Et là, il m'a regardé, il m'a dit, celui-là, il est mort, maman. Et puis, quand il est arrivé ici, régulièrement, le curé, il l'appelait pour qu'il aille chez lui, parce que il habitait pas très très loin, vous savez. Donc, je voyais à chaque fois, Alexandre me disait qu'il voulait pas y aller. Puis son père arrêtait pas de l'harceler en disant « si, faut que tu ailles ». Puis à un moment donné, comme il m'embêtait aussi moi, le gamin, il disait « bon, maintenant, il va arrêter de t'embêter, j'y vais ». Alexandre m'a dit qu'une des dernières fois qu'il est allé manger chez le curé avec son père, le curé a dit « Alexandre, maintenant, tu vas te mettre en tenue pour nettoyer la douche ». Et son père lui a dit comme ça, dans l'oreille, « Non, laisse, tu sais comment il est, n'y va pas. Je vais le faire à ta place. »
Le 16 juillet 2021, la chambre d'instruction de la cour d'appel d'Amiens, après avoir entendu son avocate, l'avocat général et deux experts psychiatres, décide qu'il est pénalement irresponsable du meurtre de l'abbé Matassoli. Il ne sera donc pas jugé. En France, on ne juge pas les fous. La cour ordonne son placement en hôpital psychiatrique avec obligation de soins.
Il a été vu par deux experts et les deux experts, ils ont dit qu'il était irresponsable de ses actes parce qu'il avait sa conscience suspendue. Pendant 24 heures, il était plus... Au final, il était là, mais sa conscience, elle était partie, je sais pas où. Donc, c'est lui sans être lui. C'est sa folie. Au final, c'est sa folie qui a fait qu'il a, bah, il a tué.
C'est les termes justes. Et alors, le bon élément que j'ai pour asseoir ça, c'est que pendant sa détention, Alexandre, il va recevoir des lettres de félicitations.
Docteur Bruno Roux, expert psychiatre.
De la part des gens du village qui connaissent maintenant les exactions du père Matassoli. Et lui, il n'accepte pas ces félicitations. Il se voit pas le héros ni le pourfendeur d'un prêtre pédophile.
Il sait qu'aujourd'hui, la vie lui donne une seconde chance et qu'il n'a pas le droit de se louper. Donc, bah, il apprend le chemin de l'école. Donc, il va faire des cours à distance. Il dit toujours que si aujourd'hui il est là, comme il est, c'est parce que bah, j'étais là. Parce que, bah, ouais, des fois, quand il allait pas bien et tout, je disais, allez, ça va, t'inquiète pas, ça va aller. Et puis, t'es pas tout seul. Et puis bah, aussi de dire, bah, je t'aime. Hein. C'est pas grand chose, mais pour lui, c'est beaucoup. Hein. Surtout quand vous êtes de l'autre côté, vous savez pas du tout ce qui se passe. Et des fois, il me dit, je suis l'enfant qui te déçoit le plus. J'ai dit, non, pas du tout. Pas du tout. Je lui dis, pourquoi tu me décevrais? Bah, au vu de ce que j'ai fait. Mais je lui dis, mais c'est pas toi, Alex. Puis je lui dis, puis je suis ta mère. Comment je pourrais ne plus t'aimer? Parce qu'on peut pas ne plus aimer son enfant, c'est pas possible.
Au moment où nous enregistrons, Alexandre est toujours suivi en hôpital psychiatrique. Il obtient régulièrement des permissions de sortie pour retrouver sa famille. Il poursuit ses études de droit et dit qu'il espère devenir avocat fiscaliste ou pénaliste. C'était On de la Traconte, Code P, rédaction en chef Guillaume Maury, réalisation Boris Paczynski. Le podcast de ce programme est disponible tous les vendredis dès 6h du matin.
Retrouvez On de la Traconte, Code B, tous les vendredis de 14h à 15h sur Europe 1.